Voilà.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, et si nous revenions à l'essentiel, alors que nous prenons conscience de la limite des ressources de notre planète, une question s'impose. De quoi avons-nous réellement besoin pour vivre? Notre invité est allé plus loin que cette interrogation. Il est passé au stade de l'expérimentation en se lançant un défi, vivre 4 mois en complète autonomie sur une plateforme flottante en bambou de 70 mètres carrés au milieu d'une baie d'une île déserte en Thaïlande. Une autonomie basée sur une trentaine de low-tech, des technologies simples, pas chères et facilement réparables. Un peu fou, pensez-vous? Eh bien, pas du tout, vous allez l'entendre, et surtout, tellement plein d'enseignements. Soyez les bienvenus dans C'est pas du vent.
C'est pas du vent sur RFI.
Certains rêvent de coloniser d'autres planètes. Ils cherchent à recréer artificiellement des biosphères pour vivre en totale autonomie dans des milieux hostiles. Moi, j'adore notre planète. Et je me dis qu'avant d'aller s'installer ailleurs dans la galaxie, on pourrait trouver des moyens de vivre mieux, ici, sur notre bonne vieille Terre. Alors, j'ai imaginé une expérience. Créer une biosphère low-tech. Rassembler et combiner dans un petit espace les meilleures techniques trouvées autour du monde. Et tenter de vivre en autonomie grâce à elles. C'est sur ce radeau de bambou de 70 mètres carrés, flottant au milieu de l'eau, que j'ai décidé de m'installer avec Melotech. Seul, pendant 4 mois, le temps de voir quel niveau d'autonomie je peux atteindre.
Bonjour Corentin de Châtel-Perron.
Bonjour Anne-Cécile.
C'est vous que nous venons d'entendre là, donc vous êtes sur votre plateforme. En fait, vous avez fait beaucoup de télévision hein, malgré tout pendant ce moment low-tech, puisque vous vous êtes filmé régulièrement. On a pu suivre vos aventures sur la chaîne Arte. C'est de ces films-là qu'est extrait le son que nous venons d'entendre. Comment est-ce que vous allez ?
Très bien. Je continue ma quête des low-tech autour du monde.
Oui, vous êtes en bonne santé.
Alors oui, je suis ressorti de cette expérience en pleine forme, même si j'ai pas mangé très diversifié, c'était suffisant pour mon équilibre nutritif.
Grillons, spiruline.
Grillons, spiruline, des légumes feuilles, du maïs et quoi d'autre ouais, c'était à peu près.
C'était à peu près tout. Alors on va revenir sur cette expérience, mais en fait vous êtes déjà venu dans C'est pas du vent il y a quelques années, vous avez fait du chemin depuis. On va essayer de vous suivre parce que vous avez un parcours qui je pense peut être inspirant pour nos auditeurs. Vous êtes français, vous êtes breton, c'est important de le dire parce que quand on est breton en France on aime bien le dire. Vous avez suivi une formation d'ingénieur et en 2009 vous êtes parti au Bangladesh pour travailler sur un chantier naval. Et là, vous avez eu un déclic, vous vous êtes dit quoi, faut que je fasse autre chose de ma vie que simplement ingénieur sortant d'une grande école.
C'est vrai que c'était un chantier naval de construction de bateaux de pêche qui importait de la fibre de verre. Et du coup, je me suis dit, ce serait sympa de trouver un matériau plus local et plus écolo, plus naturel. Et donc, ouais, c'est là que s'est fait un peu l'embranchement avec une carrière, entre une carrière un peu classique et une carrière un peu bizarre, comme celle que j'ai suivie depuis.
Alors, une carrière un peu bizarre, ça donne l'aventure Taratari. C'était quoi cette aventure en quelques mots?
Alors du coup, j'ai voulu remplacer la fibre de verre qui était utilisée dans les bateaux par de la fibre de jute. Et j'ai fabriqué un bateau à moitié en fibre de jute, à moitié en fibre de verre. Et pour le tester, je suis rentré en France à la voile avec. Ne sachant pas trop naviguer. Donc ça a été une aventure de 6 mois en passant par la mer Rouge, le golfe d'Aden, la Méditerranée. Et quand je suis rentré en France, j'ai trouvé des partenaires scientifiques, un peu de fonds, et je suis retourné au Bangladesh, monté un labo de recherche sur ce matériau à base de fibres de jute pour continuer. Voilà.
Et, voilà, et ça a donné le Gold of Bengal, quand
même. Gold of Bengal, exactement, qui était du coup un bateau 100% en composite à base de fibres de jute.
Donc vous avez relevé votre défi.
Et voilà, je suis reparti 6 mois naviguer pour tester le bateau, mais cette fois, je m'intéressais aussi à toutes les technologies, comme vous disiez, les low-tech, qui amènent l'autonomie avec des systèmes simples, avec les moyens du bord, comme on dit sur un bateau. Et donc, j'ai voulu pendant 6 mois être autonome sur mon bateau. Et bon, ça n'a pas du tout fonctionné comme je le voulais. Il n'y a même pas grand-chose qui a fonctionné. Mais ça m'a donné une idée avec laquelle je suis revenu. C'était en 2013. C'était d'essayer de trouver toutes les innovations low-tech autour de la planète, de les tester, de les documenter et de les partager au maximum de monde pour que ben, les gens puissent les répliquer. Et quand quelqu'un a une idée quelque part dans le monde, qu'elle puisse être copiée, répliquée, implémentée autre part par les milliers ou les millions quelquefois de gens à qui ça pourrait bénéficier.
Alors ça s'est concrétisé là aussi par de la navigation, hein, puisqu'en février 2016, vous avez repris la mer, cette fois à bord d'un catamaran, le Nomade des mers. Et vous aviez donc l'objectif de thésauriser comme ça toutes ces low-tech. Ça a duré 4 ans
Ça fait même plus de 5 ans. Et le tour du monde n'est même pas encore terminé, alors que je pensais que ça allait durer 3 ans à la base. Mais en fait, c'est qu'il y a beaucoup plus d'innovation que ce qu'on pensait. Donc, on est environ 4 sur le bateau en général et c'est un bateau laboratoire. Donc, on va d'un pays à l'autre et on cherche des innovations low-tech. On rencontre des inventeurs ou des gens qui utilisent des low-tech. Et à chaque fois, on teste tout sur le bateau. On fait de la documentation, des tutoriels vidéo, des tutoriels écrits, des documentaires aussi pour Arte. Et on met ça, ce contenu, sur une plateforme comme un Wikipédia, mais pour les low-tech, pour que n'importe qui puisse avoir accès. Donc à chaque tutoriel, il y a combien ça coûte, combien de temps ça prend, quel est l'intérêt de ce savoir-faire, et puis où est-ce que ça peut être, où est-ce que ça peut avoir un intérêt, comment le faire pas à pas, etc.
Alors c'est écrit sur votre pull, ça s'appelle le Low-Tech Lab.
Low-Tech Lab.org.
Voilà, low-tech-lab.org. Et aujourd'hui, on y trouve quand même 736 projets de 83 pays.
Oui, exactement. C'est collaboratif, donc n'importe qui peut ajouter des projets. Et alors, il y a autant des choses qui répondent aux problèmes d'accès à l'eau, à la nourriture, à l'énergie, au recyclage des déchets, à l'hygiène, etc.
Et c'est très simple, c'est open source, tout le monde peut s'en saisir. Il faut être un peu ingénieur ou juste un peu malin ?
Alors, il y a un petit peu de tout. Il y en a qui s'adressent à des particuliers, à n'importe qui, même des personnes qui ne savent pas du tout bricoler. Il y a par exemple tout ce qui correspond au zéro déchet pour conserver la nourriture, pour, faire du savon, faire du dentifrice, etc. Et il y en a des beaucoup plus complexes qui s'adressent plutôt à des entrepreneurs, mais c'est toujours faisable avec des moyens locaux. Comme par exemple l'élevage de mouches soldat noires ou le recyclage de plastique pour faire du carburant ou des choses.
Mais ça sert à quoi d'élever des mouches soldat noires ?
Alors je disais ça comme exemple parce que c'est un de mes trucs préférés. C'est une mouche dont les larves transforment les déchets organiques en compost. Donc on donne des déchets organiques à ces larves, elles les digèrent, ce qu'elles ont digéré fait du compost et ces larves on peut les récolter pour les donner à manger à des poissons ou à des poulets. Et donc ça a plein d'avantages et écologiques et économiques et c'est quelque chose qui est en train de se développer un peu partout dans le monde qui peut être fait autant à petite échelle qu'à grande échelle.
Et c'est dans ce vivier de low-tech que vous avez puisé pour vivre pendant 4 mois sur cette plateforme flottante en bambou en Thaïlande. On en parle juste après ça.
Zuerst Level Down, fuchsartiger Levelbau, minus size. Ich steppe aus dem Leveltraum. Keine Limits, nur Levels, nur Klassen. Und wie jeder muss ich arbeiten für die Ernte von meinem Lebensbaum. Leben low, leben high, Standards ballert. Alles echt jetzt, kein Dream, nur inshallah. Bam, 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 bakba. Shoutout Zapata. Low-Tech ist Codex, Hakuna Matata. Ich hab Zukunft gesehen. Sie ist gut gewesen, der gleiche Traum im Level up, seit ich ein kleiner Bub bin. High life, meine DNA, die Welt viel zu crazy, Baby, jeder will versuchen und ich nehme mir ein gutes mit. Und mit der Zeit wird alles besser, aber niemand chillt für immer auf dem Level. Palast gegen Wellblech.
Tänz gegen Trottinett und wenn du Bock willst, dann komm mit dem Trottinett. Das Leben spielt eine Mega-Show, ich winke auf dem Logenplatz. Neben mir der Megatron am Hinken bis im Totentanz. Applaus, Applaus, ich klatsche nur für andere. Das Beste nicht mehr fertig, die allein auf der Wahl. Das ist Low-Tech Highlife, Level up, Level down, ich kann ein Zeit. Und ich seh so nen in der Skyline, auf der Straße in der City ist es Primetime. Low-Tech Highlife, Level up, aber ich kann ein Zeit. Und ich seh so nen in der Skyline, auf der Straße in der City ist es Primetime.
Matamaka, Low-Tech High Life, des Suisses qui font du dub dans C'est pas du vent sur RFI.
C'est pas du vent.
On a tous un grand cheminement à faire dans nos vies et on est en train d'inventer les uns et les autres le monde de demain.
Le magazine de l'environnement sur RFI.
Il n'y a rien de plus beau que d'aider l'humanité dans sa progression. Ça donne sens à notre vie tout ça.
Et nous sommes en compagnie de Corentin de Châtel-Permont aujourd'hui qui vient de publier « Ma biosphère, vivre autonome grâce au low-tech » chez Artaud. Alors votre biosphère, Corentin, c'est une plateforme en bambou de 70 mètres carrés, flottant dans une baie d'une île déserte en Thaïlande. Vous y avez vécu pendant 4 mois. C'était quoi le défi ? Vous cherchiez quoi à travers cette expérience ?
En fait, depuis plusieurs années, je me renseignais sur les innovations low-tech et j'avais remarqué que toutes ces innovations venaient de pays différents, de contextes différents. Et pourtant, j'avais l'intuition qu'en les combinant, on pouvait atteindre quelque chose de génial, qu'on pouvait en fait créer une espèce d'écosystème de low-tech avec les déchets de l'un qui serviraient de ressources à l'autre, etc. Et donc, j'ai voulu faire un petit peu comme ce que les agences spatiales font pour coloniser d'autres planètes, mais version low-tech, c'est-à-dire faire un écosystème de low-tech et vivre dedans en utilisant le moins d'énergie possible, en recyclant mes déchets, etc.
Oui, au passage, dans votre livre, vous égratignez à de nombreuses reprises Elon Musk et ses envies de colonisation de la planète Mars. Ça vous semble complètement décalé par rapport aux enjeux d'aujourd'hui ?
En fait, faire aussi le tour du monde avec ce bateau, j'ai découvert à quel point la planète était géniale et pleine de ressources et le potentiel qu'il y a, en fait. Et je comprends pas ces milliardaires qui veulent aller sur des cailloux pourris. Il fait froid et c'est irrespirable. Alors que notre planète, il y a tout à faire. Et surtout depuis que je travaille dans les low-tech, je me rends compte à quel point on peut réinventer notre manière d'habiter sur la planète et on peut trouver des modes de vie qui sont beaucoup plus sains, beaucoup plus épanouissants, beaucoup plus durables.
Qu'est-ce qui s'est révélé indispensable comme low-tech sur votre plateforme ?
Alors, tout était assez indispensable. Le cœur vraiment de l'écosystème, c'était tout ce qui me permettait de manger. Et donc, entre les cultures de champignons qui poussaient sur des déchets organiques, la spiruline, c'est une microalgue, une cyanobactérie qui est pleine de protéines, les cultures de plantes que je nourrissais avec de l'eau et des engrais faits avec mes déchets organiques transformés par des bactéries. Et puis au début j'avais des poules et un élevage de grillons et bon j'ai arrêté l'élevage de poules en cours et c'est l'élevage de grillons qui m'a nourri pour tout ce qui était protéines et certaines vitamines.
Et puis quand même canard.
Et oui canard je l'ai pas listé dans l'écosystème parce que alors c'était une canne mais elle pondait pas, elle était trop jeune, mais par contre d'un point de vue affectif elle a eu un grand rôle.
Oui, c'était votre animal de compagnie. On a du mal à penser qu'on peut créer une relation forte avec un canard. Quand vous étiez sur votre nomade des mers, vous aviez créé une relation forte avec une poule.
Alors oui, mais une poule c'est beaucoup plus égoïste peut-être pas dire égoïste mais disons que ça a moins de lien avec les humains, alors qu'un canard, c'est hyper affectueux, c'est comme un chien ou un chat, enfin plutôt comme un chien.
D'accord, donc vous l'avez laissé là-bas quand même.
Et oui, canard n'aurait pas été content sur le bateau ou en France, et du coup je l'ai laissé à un pêcheur thaïlandais qui aimait bien canard et qui m'a promis de pas
d'en prendre soin,
de pas en faire un canard laqué.
Oui, c'était sans doute important de le préciser en partant. Alors le plus difficile, ça a été quoi? Le plus surprenant? Qu'est-ce qui vous a un peu déconcerté durant cette expérience?
Alors je dirais qu'il y a deux choses. Déjà, entre mes plans théoriques, tout devait marcher au bout de quelques semaines.
Et en fait, quand on lit votre livre, on se rend bien compte que c'est compliqué.
J'ai eu plein de, plein de problèmes, plein d'obstacles, surtout avec ce qui était vivant. Encore pour produire de l'énergie, ça a été pour cuire ma nourriture, etc. Parce que j'avais l'habitude de l'expérience du bateau. Pour l'eau, j'ai eu quelques problèmes avec le dessalinisateur solaire. Heureusement, il a plu suffisamment. Mais pour la nourriture, en fait, moi, je n'étais pas habitué à faire pousser des plantes, à élever des grillons, de la spiruline, etc. Et en fait, ça a été assez compliqué de mettre au point cet écosystème vivant. Et la seconde chose, c'est de me retrouver seul pendant 4 mois avec ces espèces vivantes-là. J'ai ressenti que c'était un peu comme ce que j'appelle dans le livre un team building interespèce. C'est-à-dire que ça m'a vraiment rapproché de ces espèces vivantes-là, donc, parce que je dépendais d'elles, en fait. Et j'étais le seul humain, et autant avec canards que les bactéries, que les plantes et tout ça, j'ai vraiment senti un lien, et que un lien qu'on ne trouve pas, en fait, quand on va acheter une endive ou une pomme dans un supermarché, puisqu'on n'a pas vu le truc pousser, et puis on ne sent pas qu'on est dépendant, puisqu'on a le choix avec d'autres nourritures. Et je sais pas, là, ça m'a vraiment rapproché de toutes ces espèces, et maintenant, je suis convaincu qu'on doit retrouver une niche écologique et reconsidérer les écosystèmes dans lesquels, enfin, auxquels on appartient.
Oui, parce que finalement, vous avez testé grandeur nature le fait d'être un maillon de cet écosystème.
Oui, exactement. Et il y a même un moment où je ne me suis pas retrouvé en haut de la chaîne alimentaire. L'humain était vraiment bas dans la chaîne alimentaire parce qu'il y avait eu... En fait, l'écosystème s'est un peu emballé au bout d'un moment. Il y a eu des mouches, des moustiques, des chenilles et je me faisais attaquer de tous les côtés. Et vraiment, ça rend humble de se retrouver comme ça, complètement impuissant face à des espèces qui paraissaient avant insignifiantes.
Et vous avez finalement réussi votre pari, puisque vous êtes resté 4 mois sur votre plateforme et vous avez fait une prise de sang avant, une prise de sang après, et le bilan est plutôt positif.
Complètement positif, sur seulement quelques mètres carrés, environ une demi-place de parking, donc c'est vraiment rien. C'est là qu'étaient concentrées la plupart des low-tech qui fournissaient la nourriture et l'énergie. Ça suffisait pour apporter tout ce qui est protéines, vitamines et minéraux. Donc il fallait quand même importer tout ce qui est glucides et lipides, c'est-à-dire céréales, légumineuses, huiles ou des choses comme ça. Mais sur tout le reste, c'était, j'ai atteint l'autonomie et ça, j'en étais assez fier. Ouais.
Et à partir de là, du coup, est-ce que vous allez... là, vous avez écrit un livre, mais est-ce que ça fait un prototype de survie dans tous les milieux?
Alors, chaque milieu, enfin, chaque contexte est un peu différent pour le climat, pour les ressources locales et tout ça. Donc, c'est adaptable. Mais cette idée-là d'écosystème de low-tech, elle est valable partout, même à Paris, même en zone aride, etc. Je pense que l'idée de vivre dans un écosystème peut être répliquée partout. Et c'est ça qui m'intéresse. Et alors, je vois ça comme vraiment une première étape des recherches. Et il y en aura d'autres. Mais voilà, l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut inventer un mode de vie plus low-tech, plus local, qui s'appuie sur des ressources naturelles, sur des énergies renouvelables, etc.
Avec un impact vraiment minimum. Alors, cette passion pour les low-tech, vous la partagez sur votre site de Low-Tech Lab, on en a parlé, et vous créez des émules dans le monde entier. Bonjour Loïc Houm.
Oui, bonjour Madame Brass. J'espère que vous allez bien.
Oui, je vais très très bien, merci. Et vous-même, à Yaoundé?
Oui, super, tout va bien. Le climat est au top.
Le climat est au top. Bah, écoutez, pourvu que ça dure, hein. Vous êtes ingénieur en télécom et vous avez décidé, vous, de créer un low-tech lab à Yaoundé, donc en vous inspirant justement de l'expérience de Corentin. C'est cela, c'est l'expérience de Corentin qui vous a donné envie de vous lancer?
Oui, l'expérience de Corentin notamment, et aussi les émissions Arte. Bon, moi et mon grand-père, nous sommes de grands passionnés des émissions Arte, et nous regardons généralement des initiatives écologiques comme celle-là, et on s'est dit pourquoi pas se lancer dans un projet comme celui-là ici, et mettre à contribution la population.
Alors, vous m'avez dit que vous vouliez faire de la bricole pour aider les gens, et vous misez sur 2 low-tech actuellement, les lampadaires solaires et les séchoirs solaires. Alors, les lampadaires solaires rivalisent sérieusement avec les Chinois, hein. Expliquez-nous.
Oui, naturellement, les composants utilisés pour la fabrication de ces lampadaires solaires made in China sont des composants très, très nocifs pour l'environnement. Donc, et vous pouvez les retrouver ici dans les voiries, les déchetteries. Et on s'est dit, pourquoi pas améliorer le concept via les low-tech. les rendre moins coûteux en composants électroniques dans nos lampadaires, autant pour moi, et leur permettre justement d'aider les populations, donc prioritairement basées sur la conception autonome, quoi, parce qu'on se disait, bon, avec les tutoriels qu'on peut chercher sur le net, ça et là, ça pouvait nous aider, mais on s'est rapidement compte qu'on faisait des déchets sur des déchets. Donc sur le net et tout, via la communauté aussi Low-Tech Lab France, nous sommes entrés en contact avec un partenaire ici local qui est une ONG française, Solidarité Technologique, qui nous permet voilà, de mieux comprendre la gestion de ces déchets électroniques-là. Parce qu'il ne faut pas faire des déchets sur des déchets, justement, et mieux les utiliser, mieux les conditionner, et voilà, mieux les utiliser même dans la conception de nos lampadaires solaires. Voilà, en gros.
Donc vous récupérez les déchets technologiques pour faire ces lampadaires solaires et vous faites aussi des fours solaires.
Oui, des fours et des séchoirs solaires, mais principalement en cette période, on s'occupe principalement des séchoirs solaires, parce que les séchoirs solaires sont très importants pour les petites campagnes des GIC. Les communautés ici au Cameroun, ce sont dans des communautés rurales, ce sont des femmes qui rurales généralement, qui n'ont pas d'emploi et qui font de l'agriculture, quoi. Et elles ont de grosses difficultés à importer justement leurs produits de ces champs-là dans les villes parce que ça coûte cher, le transport, etc. Et on voulait leur apporter cette solution justement pour leur permettre localement déjà de transformer déjà les aliments comme le manioc, il y a le sorgho, il y a le mil, directement localement.
Alors justement, est-ce que vous pourriez inspirer d'autres personnes qui vous écoutent ? Moi, je suis auditeur de RFI, je vis ailleurs que Yaoundé, mais je me dis, c'est chouette ce que Loïc est en train de faire là-bas, j'aimerais bien faire la même chose. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil pour ceux qui aimeraient se lancer ?
Oh, le premier conseil, c'est premièrement l'amour de la nature. La sensibilisation par le bienfait que ce recyclage peut apporter aux populations, à notre environnement. D'abord, moi, je pense que c'est prioritairement ça. Deuxièmement, de l'engagement. Et justement, de l'engagement, comme hier, par exemple, on devait aménager une jeune maman qui avait 7 enfants à domicile et elle n'avait pas d'électricité pendant une semaine. Et là, parfois, ce sont des cas qui nous appellent, par exemple, dans la nuit, il faut être disponible, s'engager véritablement pour aller les aider dans des heures peut-être tardives aussi. Donc, c'est vraiment les deux qualités sine qua non. Sinon, un utilisateur, un habitant lambda, celui qui n'a même pas fait de formation, peut faire les deux. Tout le monde peut y contribuer, quoi.
Merci beaucoup Loïc pour votre témoignage. Corentin, j'imagine que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Loïc.
Ah ben complètement, et ce que fait Loïc, je trouve ça génial parce que c'est ça la vision qu'on a, c'est que plein de gens dans plein de pays du monde puissent voir ce qui existe comme low-tech localement, faire remonter les idées à un niveau international, au réseau, et puis implémenter localement des idées aussi qui puissent puiser un peu partout. Et bah, Loïc fait exactement ça, et je trouve ça vraiment formidable. Et j'espère qu'il y aura d'autres Loïc un peu partout dans le monde qui vont émerger dans les prochaines années.
Oui, parce que Loïc, finalement, il utilise en plus les déchets électroniques, donc c'est extrêmement vertueux. C'est au lieu d'acheter, comme il disait, des lampadaires chinois bourrés de qui derrière sont enfin bourrés d'électronique, pas forcément de très bonne qualité, enfin ce dont il parlait en tout cas, qui se retrouvent après sous forme de déchets un peu partout, et bien là il thésaurise, il transforme, il revend, il fait moins cher, donc accessible à plus de monde.
C'est un truc qu'on a étudié ça en Indonésie, c'est récupérer, pour faire des lampes, récupérer des vieilles batteries d'ordinateur. Quand une batterie d'ordinateur est morte, en général, on la jette, alors qu'à l'intérieur, il y a plusieurs petites batteries. Et souvent, il n'y a qu'une seule de ces batteries qui est morte. Et les autres sont encore valables, en fait. Donc, on peut utiliser ces batteries-là pour en faire des lampes. Et donc, c'est un système qui devrait pouvoir être appliqué dans plein d'endroits du monde, parce que dans plein d'endroits du monde, on ne sait pas quoi faire de ces vieilles batteries.
Alors, miser sur les low-tech, c'est aussi le credo du designer Cédric Carl. Il recense, lui, depuis une vingtaine d'années, les innovations oubliées. Et il invente des solutions low-tech dans le domaine de l'énergie. C'est une sorte de géo-trouve-tout, un peu comme vous, hein, qui partage et fédère autour de l'urgence de la transition énergétique. Sur une friche de 600 mètres carrés mise à sa disposition par la mairie de Montreuil en région parisienne, la station E, c'est là que nous l'avons rencontrée.
Nous, on exhume alors avec Paléo Énergétique ou avec Regenbox, notre système là sur les piles alcalines. Bah, on exhume plein de prétextes pédagogiques, plein d'idées de recherche, etc.
L'idée en fait de la Paléo Énergie, c'est de recenser les inventions énergétiques qui sont restées sur le bord de la route pour mille raisons.
C'est ça. En fait, c'est de recenser tous les innovateurs, tous les systèmes de moteurs, de panneaux solaires, etc. Mais aussi de retrouver leurs origines, parce que des fois, on a l'impression que le panneau solaire thermique, c'est un truc pour faire l'eau chaude grâce au soleil. Et on a l'impression que c'est né dans les années 1950, 60, peut-être. Et là, si on s'approche de la frise, le premier panneau solaire thermique, voilà, il est là. On est en 1891. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que dans les notices, donc on a retrouvé la pub de l'époque, là, ils disent justement que tu as un retour sur investissement de 1 an et demi, et ils comparent ça avec le prix du charbon à l'époque. Et donc, à Pasadena, en fait, la ville où ça a été installé au tout début, il y avait 30%, tu vois, un tiers des ménages utilisaient le Climax, parce que c'était son nom, pour chauffer l'eau dans leur maison. Et puis après, pour des raisons...
En 1897.
Ouais, c'est quand même assez fou. Donc tout ça, c'est plein d'enseignements. C'est-à-dire que là, du coup, on peut retracer des systèmes très low-tech, pour le coup, parce qu'il n'y avait pas de régulation, parce qu'il n'y avait pas d'électronique, parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Donc si tu veux de retourner aux sources des inventions, ça te permet de retomber sur des trucs qui, un, sont dans le domaine public, deux, tu peux certainement retrouver les plans, trois, tu peux les refabriquer toi-même avec ton école d'ingénieur ou même ton Fab Lab ou même ton atelier et ton tournevis cruciforme et ta clé à molette.
Et puis, il y a des inventions qui, finalement, sont contre-productives pour les industriels. Et vous avez découvert à ce sujet quelque chose d'intéressant au niveau des piles.
Effectivement, l'exemple de ce grand monsieur qui s'appelle Karl Kordesh, qui, dans les années 1960, alors d'abord, il travaille sur les piles à combustible qui vont mener aux piles à combustible utilisées dans la mission Apollo. Donc, c'est un grand électrochimiste de l'époque. Et il va travailler sur d'autres types de piles, dont les piles alcalines qu'on connaît tous, qui sont ces fameuses piles qu'on met dans les Walkman, dans les enregistreurs, dans les télécommandes. Et les piles alcalines, on sait qu'elles sont à usage unique. Donc, une fois qu'on a vidé l'énergie qui est dedans, ben, il n'y en a plus et donc on les jette. Et effectivement, à l'époque, Karl Kordesh, lui, il sort un chargeur de piles alcalines. Donc, ça voudrait dire qu'on peut les recharger. Et effectivement, du coup, quand on a retrouvé ça, eh bien, on a retrouvé le chargeur original. Et donc, on l'a refait, on l'a remis au point un prototype qui s'appelle Regenbox et qui permet du coup de recharger les piles alcalines. Il permet de les régénérer, comme on dit, hein, pour ne pas confondre avec les piles rechargeables. Et surtout, on l'a rendu un peu plus intelligent, c'est-à-dire qu'on l'a connecté avec un ordinateur qui permet de mesurer les charges et les décharges qu'on fait de manière automatisée. Et il permet aussi de mesurer ce qu'on trouve dans une pile.
Voilà, et comme ça, il suffit de poser la pile dans la Regenbox, de voir où est-ce qu'elle en est, est-ce qu'elle est complètement déchargée ou pas, et on peut la recharger. C'est formidable, ça.
Génial.
Alors, ça ne va pas plaire beaucoup aux fabricants de piles, évidemment, mais c'est rusé.
Bah, je trouve ça malin, et c'est le genre de savoir-faire qu'il faudrait diffuser à tout le monde. Et parce que les piles, ça finit dans la plupart des pays, je pense, dans des déchetteries, ça pollue, etc. Et du coup, ça coûte cher d'en racheter. Et ouais.
Bon, je vous passerai les coordonnées de Cédric Carl à la fin de l'émission. Je pense que vous avez certainement des choses à vous dire. Allez, un moment de bonheur dans C'est pas du vent. Patti Smith, People Have the Power. Vous êtes bien, vous êtes sur RFI.
Dreaming well of an aspect bright and fair, and my sleeping it was broken, but my dream it lingered near in the farm of shining valleys where the pure air rarefied, and my senses a newly opened I will awaken into the cry that the upon the meek, the grace is showered. It's decreed, the people rule. Thank you.
dancing because the people had their ear, and the shepherds and the soldiers.
The Power de Patti Smith avec la chorale new-yorkaise Cœur, 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 Dansez pas du vent sur RFI. Nous sommes en compagnie de Corentin de Châtel-Perron aujourd'hui qui vient de publier Ma Biosphère, vivre autonome grâce au low-tech chez Artaud. Les low-tech, c'est un concept auquel l'écrivain de science-fiction Alain Damasio croit aussi beaucoup.
On a besoin de technologies qui vont demander extrêmement peu d'énergie à fabriquer. Il faut qu'on trouve les technologies qui demandent le minimum d'énergie pour être élaborées. Et que ces technologies, ensuite, elles soient résilientes, elles soient robustes, elles soient réparables, elles soient hackables, elles soient bricolables, elles soient surtout appropriables. C'est-à-dire qu'on puisse nous-mêmes les modifier, les altérer, etc. C'est-à-dire qu'on reprenne la main sur les technologies avec lesquelles on vit. Donc quand les gens disent « Ouais, mais c'est le retour à la bougie ou c'est une régression, ce que vous proposez, c'est une décroissance. » Non, c'est au contraire une optimisation, mais une optimisation dans la sobriété. C'est ce point de sobriété maximale qu'on doit essayer d'atteindre. Voilà. Et c'est de se dire tout simplement que ça va être génial. Tu vois? C'est-à-dire que moi, personnellement, à titre personnel, l'arrivée des effondrements ou des délitements, je le vois comme une chance extraordinaire. Quoi. On va enfin sortir de cette espèce de d'impasse ou de fausse piste qu'on suit déjà maintenant depuis 30 ou 40 ans. Tu vois? On va enfin revenir à quelque chose de beaucoup plus intéressant, beaucoup plus vivant, beaucoup plus riche et surtout beaucoup plus humain et social. Ça ira de concert avec une reliaison, un renouement aussi avec les autres. Parce que ce type de technologie fait que tu ne peux pas être totalement individué, quoi. Tu ne peux pas être totalement dans ta monade, tu ne peux pas être totalement ton technococon. Tu es obligé de t'articuler aux autres. Donc ça va recréer de la sociabilité aussi et ça va recréer cette dimension politique immédiate, ce vivre ensemble qu'on a aussi totalement perdu parce que la techno nous a permis de nous extraire complètement de ça, avec beaucoup de tristesse d'ailleurs, hein, beaucoup de solitude connectée, quoi. Donc. Moi, je le vois, ouais, comme une renaissance, mais il faut le présenter comme une renaissance. Et pas du tout, et c'est arrêter avec les imaginaires descendants. Non, on passe pas de la high-tech à la low-tech, tu vois. On passe à une technologie sobre optimisée. Et on va pas marcher dans la boue, revenir à la bougie, on va se renouer au vivant. On va retrouver tout ce tissage avec le vivant, toute cette étoffe du vivant. On va se retrouver ample et tissé avec tout un ensemble d'espèces dont on a été coupé. Il faut qu'on fasse passer cette idée que c'est vraiment, oui, une forme de progrès, ou en tout cas, c'est une forme d'enrichissement de l'homo sapiens dans lequel on s'est... Là, on a, pour moi, voilà, on est avancé dans une impasse. On a avancé dans une impasse extraordinaire. Et c'est dire aux gens, attends... Prends ta main, recule un petit peu, là, vas-y, recule, et on va réaller vers là, parce que là, la direction est intéressante et va être riche.
Corentin de Châtel-Perron, on est donc, si on écoute Alain Damasio, dans l'urgence d'arriver à un point de sobriété maximale. Vous partagez cette ambition?
Je partage ce qu'il dit, parce que j'aime bien un peu tout ce qu'il dit, l'idée de reprendre la main sur nos technologies. Je trouve que c'est une idée, c'est vrai qu'on a un peu oubliée. Renouer avec les autres, renouer avec la nature, tout ça, oui. Et il y a chez Alain Damasio l'idée qu'il faut réinventer, il faut reconstruire un imaginaire différent de celui qu'on avait avant, et ça je le rejoins complètement. Moi je trouve que on est encore marqué par les vieux films de science-fiction à la Star Wars ou à la Cinquième Élément, qui décrivent des mondes complètement stériles et hyper high-tech, où on est complètement déconnecté de la nature. Et je pense qu'on a compris maintenant que, avec les limites de la planète, le réchauffement climatique, la raréfaction des ressources, la biodiversité qui s'écroule, qu'il fallait pas aller vers ça, en fait. Et ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas d'idée d'un autre futur que ça, puisqu'on nous l'a vraiment inscrit dans la tête pendant des décennies. Et maintenant, on a ce travail de créativité à faire et d'ingéniosité de réinventer un futur qui soit à la fois sain et à la fois durable.
Mais en même temps, comme vous le dites, c'est difficile parce qu'on est façonné par notre environnement, par les publicités, par la société de consommation qui nous est vendue comme étant l'ultime bonheur humain. Et dans votre livre, vous parlez du conflit un peu entre le chien et le sage. Alors expliquez-nous ça.
Bah en fait, on dit qu'il y a pour 75%, nos décisions ne sont pas rationnelles. Et moi qui suis ingénieur, je comprenais pas ça au début. Et en fait, c'est complètement vrai. Il y a plein de choses qui viennent de notre instinct, en fait. Et en restant 4 mois sur ma plateforme, tout seul, j'ai pu observer un petit peu ma manière de penser et m'auto-analyser et découvrir un petit peu que dans le cerveau, effectivement, il y a une partie qui est très rationnelle, qui va calculer un petit peu pour faire bien. C'est la partie qui peut nous dire, par exemple, eh ben, préserve les ressources ou fais attention à la nature ou pense à long terme, etc. Mais il y a aussi une partie qui est complètement instinctive et qui est plus liée à l'envie et qui est aussi quelquefois drivée par le marketing ou par des entreprises ou par des images qu'on nous a données du futur. Et cette partie instinctive, elle est beaucoup plus difficile à changer, en fait.
Et d'avoir compris ça, ça m'aide en fait à identifier la nécessité qu'on a à rêver en fait, à faire appel à l'art aussi, à faire appel aux émotions pour réfléchir à notre futur. Parce que c'est le futur notre idée du futur qui nous fait prendre la plupart de nos décisions dans le présent.
Alors par exemple, ça veut dire que quand on sort d'une expérience comme la vôtre, au bout de 4 mois, vous le racontez dans votre livre, vous arrivez dans une ville, ça sent plein de cuisines différentes et vous n'êtes pas tenté, quoi. Ça m'a sidéré. Vous êtes arrivé à une maîtrise de vos envies à ce point.
Mais en fait, en m'auto-analysant, j'ai commencé à me renseigner sur le fonctionnement du cerveau et la capacité qu'on a à se conditionner à quelque chose. Et effectivement, on dit qu'on met 1 mois pour s'habituer à quelque chose. Par exemple, avant, je détestais le footing et maintenant, je suis devenu addict au footing. Et en fait, des choses comme ça qu'on ne conçoit pas, mais auxquelles on peut s'habituer, il y en a plein, en fait, dans plein de domaines différents. Et pour moi, c'est une des clés, parce là, on envisage mal de changer nos modes de vie. On s'est habitué à un certain mode de vie, mais ça m'a fait prendre conscience que non, si on se met sous contrainte ou si on se motive pour changer de mode de vie, après, on adoptera un mode de vie et puis on s'y fera et on sera très heureux dedans. Le cerveau est malléable et il faut compter dessus.
Donc, en fait, les humains, nous avons une vraie capacité d'adaptation. C'est ça, notre force.
Complètement. Et donc, on peut s'adapter autant à un monde horrible qu'à un monde génial. Et donc, essayons de se mettre dans des contraintes qu'on choisit, qui vont nous donner des modes de vie qui sont épanouissants, qui sont sains, qui sont bons pour la planète.
C'est ce que vous essayez de faire à travers le Low-Tech Lab, de changer justement les imaginaires ?
Ben oui, en fait, notre difficulté, c'est que la plupart des low-tech sortent un peu de garage. Encore aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ne sont pas désirables. Mais bon, on peut se dire que les premiers ordinateurs n'étaient pas non plus désirables et ça s'adressait à des geeks, à des gens qui, eux, voyaient le potentiel du truc. Mais la plupart des gens normaux, en fait, ne voyaient pas du tout le potentiel des premiers ordinateurs. Et en fait, au Low-Tech Lab, on voit aussi beaucoup de technologies qui ne sont pas sexy, qui ne sont pas désirables aujourd'hui, mais on voit le potentiel et on voit qu'il faut faire quelquefois un travail d'ergonomie, un travail de design ou quelquefois travailler l'imaginaire ou montrer que ça peut s'inscrire dans notre futur pour qu'ensuite elle soit adoptée par plein de gens.
Alors par exemple ?
En fait, sur le bateau, on essayait de consommer le moins d'énergie possible et on s'est mis à faire un pédalier qui permet de produire de l'énergie et sur lequel on peut fixer un blender pour faire des smoothies, on peut fixer une espèce de moulin pour moudre des grains, on peut fixer différentes machines, on peut coudre, etc. Et en fait, on a commencé à l'utiliser et puis on trouvait ça super sympa de l'utiliser. Et maintenant, quand je passe dans une ville devant une salle de gym et que je vois tous les gens pédaler dans la salle de gym à perdre de l'énergie, puisqu'en fait ça coûte de l'énergie ces machines-là, je me dis mais c'est tellement dommage qu'on passe du temps à travailler pour payer de l'énergie qui va être faite de manière très complexe, etc. Puis à côté on va dans une salle de gym où on pourrait produire de l'énergie. Et je me dis, mais en fait,
c'est du gâchis, quoi. On pourrait mettre un blender sur chaque vélo dans les salles de sport et ça ferait des jus fantastiques.
Et en fait, aujourd'hui, les gens, ils n'ont pas envie de pédaler pour produire un truc. Ils ont envie de pédaler à la salle de gym. Et typiquement, je trouve que voilà, ces pédaliers de vélo qui sont utiles, ils pourraient sortir de leur garage et puis rentrer dans les appartements des gens. Je trouvais ça génial.
Oui, parce que nous avons tous un rôle à jouer. C'est aussi la conviction de Pascal Alphonse qui nous a rejoint. Bonjour.
Bonjour Anne-Cécile. Bonjour Corentin.
Bonjour.
Alors vous allez prendre le large. Ce sera en février. Vous partez à 4 de Brest sur un voilier de 11 mètres direction San Diego en Californie où vous allez faire vos études. Mais au lieu de prendre l'avion, vous avez décidé de créer la Phoenix Expédition en y allant à la voile. Alors vous allez faire plusieurs étapes pour aller à la rencontre de personnes qui restaurent des écosystèmes marins. Alors quoi, qui et où ?
Oui, c'est exact. Donc, une nouvelle expédition à la voile, côté solution, comme nomade des mers. Donc, on va passer par les Canaries, par les Antilles, par Panama, Costa Rica, Mexique et enfin la Californie. Et on va commencer à Brest par un écosystème qu'on connaît peu, mais des récifs d'huîtres plates qui sont en train d'être restaurés par des scientifiques de l'Ifremer. Et ensuite, les herbiers marins aux Canaries, puis mangroves et coraux aux Antilles et au Costa Rica. Et enfin, les forêts de macro-algues au nord du Mexique, puis en Californie.
Et à chaque fois que vous allez donc rencontrer ces gens, participer à la restauration de ces écosystèmes, faire connaître ce qu'ils font à travers les réseaux sociaux, c'est quoi l'ambition globale de votre projet ?
L'ambition globale, c'est de décloisonner un petit peu l'objectif de la conservation marine, c'est-à-dire de mettre également les entreprises dans le jeu. On veut aider ces projets localement, effectivement, en participant directement, en les filmant, en leur donnant des vidéos pour aider leur communication, mais également en les connectant à nos partenaires fondateurs qui sont la Fondation de la Mer et l'entreprise sociale Tenaka, qui est justement spécialisée dans les solutions de RSE pour les entreprises qui peuvent investir dans des restaurations d'écosystèmes marins.
Et alors, pourquoi est-ce que ce projet vous tient particulièrement à cœur ?
Comme je le disais, et je suis content de partager l'antenne avec Corentin, c'est l'ambition d'avoir une expédition qui soit du côté solution, où on ne va pas uniquement sensibiliser les gens ou montrer les problèmes, mais expliquer qu'on peut faire quelque chose, en fait, avec le génie humain qui a largement détruit la planète. On peut aussi participer à la reconstruction de la nature, ou en tout cas réussir à amener un nouveau seuil de résilience pour ces écosystèmes.
Et c'est d'autant plus important pour vous que vous vivez sur un bateau depuis longtemps, je crois.
Ouais, depuis 2 ans à Brest sur mon petit voilier. Et ça fait 8 ans que je suis proche de la mer puisque je quitte la Marine nationale après 8 ans d'engagement. Et voilà, maintenant j'ai envie vraiment d'agir pour l'océan en tant que tel, quoi.
Donc on va vous suivre dans ces pas du vent, vous nous tiendrez au courant. Corentin, est-ce que vous avez un conseil à donner à Pascal avant qu'il prenne le large ?
Ben, bravo pour le projet et j'espère que, comme moi, au fur et à mesure de mon voyage, tu trouveras que ces solutions, elles te donnent de l'espoir et elles donnent de l'espoir à d'autres gens. Et donc, bon courage, bon vent.
Merci Corentin, super.
Merci Pascal Alphonse, on suivra donc votre Phoenix expédition durant les prochains mois, départ en février. Vous nous tiendrez au courant de vos rencontres et de vos découvertes. Corentin de Châtel-Perron, on voit de plus en plus comme ça de gens qui s'engagent, qui ont envie de faire des choses, qui prennent des trajectoires un peu comme vous, qui avez décidé finalement de ne pas avoir un travail d'ingénieur classique, mais de vous lancer dans l'aventure, la découverte, l'envie d'avoir une vie un peu différente. Ça, c'est quand même porteur d'espoir. On se dit que du coup, il y a quand même une nouvelle civilisation. Certains emploient des grands mots parfois dans ce studio, mais qui est en train de naître.
C'est vrai que je trouve qu'on a passé beaucoup d'années à être juste sur de l'observation. Le réchauffement climatique, etc. À aller voir effectivement les impacts, les machins. Et que là, on a
besoin de science quand même.
On a besoin, et puis on avait besoin d'être sûr qu'il se passait quelque chose, je crois.
Ouais, mais là, on a bien compris normalement.
Là, je crois qu'on est nombreux à avoir compris. Et on rentre dans une phase que je trouve géniale. En tout cas, moi, qui me passionne, c'est, j'estime que c'est des explorateurs de mode de vie. C'est des gens qui testent, qui proposent des solutions. On est dans une phase hyper expérimentale, en fait. Et je pense que cette phase, elle commence tout juste. Et c'est grâce à cette phase, grâce à ces gens, à ces pionniers qui essayent des trucs un peu dans tous les sens. Il y a des bonnes et des mauvaises idées, sûrement. Mais c'est là-dedans qu'on lira les pistes qu'on a pour notre futur. Et donc, cette phase, elle me passionne.
Alors, vous connaissez peut-être Navi Raju, qui était venu aussi dans ce studio, qui nous avait parlé de l'esprit Jugad, qui est un mot indien pour dire un peu la débrouille, l'invention, justement, à partir du quotidien. C'est ça, à votre avis, sur lequel il faut miser pour le futur ?
Pour moi, on a encore une preuve que l'ingéniosité humaine, elle se déploie complètement quand elle est sous contrainte. Et c'est pour ça que, en fait, c'est pas forcément dans les plus grands bureaux d'études qu'on a les meilleures idées. Et c'est quelquefois dans des conditions extrêmement contraignantes, dans des pays qui sont pauvres, dans des endroits où ils n'ont pas d'accès à l'eau, à l'énergie, etc., qu'on trouve des idées hyper ingénieuses. Et je trouve que là, on a une contrainte à l'échelle carrément de la planète, avec cette histoire de réchauffement climatique et de biodiversité et de ressources. Et donc là, on voit l'esprit Jugad, comme dit Navi Raju, qui se déploie à tous les niveaux. Et ouais, ça me laisse optimiste.
Alors à tous les niveaux, en même temps, il y a une limite qui est que ce sont dans les pays les plus pollueurs que le confort quotidien reste le plus important. Donc la contrainte, elle est encore très très limitée. Et le samedi, souvent le loisir principal, c'est d'aller au centre commercial.
C'est vrai qu'il y a une inertie qui est énorme et qu'il faut accepter. Et il faut accepter que les choses qui se dégradent actuellement sur la planète continuent de se dégrader tant que cette inertie restera. Mais je vois les nouvelles générations, je pense qu'elles sont... Pour elles, il y a beaucoup plus le désir de croire en un futur plus attirant. Et donc, ces nouvelles générations sont plus prêtes, je pense, à réinventer nos modes de vie. Et donc, je pense qu'au fur et à mesure que les générations grandissent, elles vont installer cette agilité et faire disparaître cette inertie.
Ça, c'est une version très optimiste et enthousiaste.
Oui, un peu.
Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui disent oui, mais malgré tout, l'objectif aujourd'hui d'un jeune, c'est d'avoir les dernières baskets, d'avoir le portable le plus sophistiqué possible. Enfin, c'est quand même une aspiration qui est très, très forte. Aujourd'hui, oui, il y a des gens qui manifestent, le mouvement de Greta Thunberg, Fridays for Future, etc. Mais c'est quand même loin d'emmener tout le monde. Donc, il y a un énorme effort pédagogique. Bon, c'est ce qu'on fait un peu à travers cette émission, c'est ce que vous faites vous aussi à travers le Low-Tech Lab et toutes les aventures que vous partagez. Mais il y a une question d'échelle, quoi.
Ouais, moi j'ai envie que là on arrive à faire comprendre à tout le monde que c'est pas soit on va en avant vers les low-tech, soit en arrière avec la décroissance, c'est qu'il y a plein de solutions possibles pour notre avenir et que c'est à chacun d'imaginer. C'est une phase où on doit rêver et je pense que les jeunes doivent comprendre ça. Que c'est pas aller en avant ou aller en arrière, c'est que en fait on peut designer nous-mêmes notre avenir.
Merci beaucoup d'être passé dans C'est pas du vent. Je rappelle le titre de votre livre, ça s'appelle Ma biosphère, vivre autonome grâce au low-tech. C'est publié chez Artaud et on peut évidemment vous suivre, vous et tous ceux qui travaillent avec vous, hein, parce que vous êtes loin d'être seuls, tout ça c'est du collaboratif, sur le site du Low-Tech Lab. Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous écrire pour réagir ou nous poser des questions par mail, c'estpasduvent@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi partager nos podcasts sur vos plateformes préférées. Elles ne sont pas en bambou et flottantes, celles-là, mais elles fonctionnent. Prenez soin de vous et des vôtres. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, même planète, même heure.
Ce dimanche.